Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes en direct avec Marie. Et Marie, qui a la joie de recevoir encore une fois Alain Scouy. Bonsoir Alain.
Bonsoir Marie, comment vas-tu?
Mais écoute, je vais très très bien. Je ne dirais pas sous le soleil de Palerme parce qu'il ne fait pas très soleil, bien qu'aujourd'hui, il y a eu un peu plus. Hier, on était carrément la pluie, l'orage, enfin, etc. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu quand même quelques rayons de soleil. Mais
Bon.
pas très chaud. Et alors, moi, je suis ravie de te recevoir ce soir sur un sujet chaud bouillant que tu as intitulé La médecine moderne, science ou religion.
Voilà.
Voilà. Et donc, juste pour préciser à ceux qui ne te connaissent pas encore et qui te découvriraient ce soir, tu as toute légitimité à aborder ce sujet de la médecine parce que tu es toi-même médecin.
Tout à fait, oui. Je suis docteur en médecine depuis 1973, donc j'ai 71 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai passé par un certain nombre d'étapes complexes qui m'ont permis progressivement de découvrir qu'en fait, notre médecine moderne n'était pas réellement scientifique ni crédible, et que en fait, ça ressemblait plus à une religion que à une science. Donc c'est ça que je voudrais vous expliquer ce soir.
OK.
Donc pour un observateur extérieur, la médecine moderne repose sur en fait une hypothèse. Qui est une hypothèse très guerrière, c'est-à-dire que la maladie serait la résultante d'une agression. Une agression par des êtres microscopiques qui sont les bactéries, les virus, ou éventuellement une agression endogène par les cellules cancéreuses. Voilà. Donc, quelque part, on pourrait dire, on pourrait comparer cette histoire à l'histoire du tas de fumier, hein, vous savez tous. Il y a des tas de fumier et puis qu'il y a des mouches qui tournent autour du tas de fumier. Mais aussi que ce ne sont pas les mouches qui ont fabriqué le tas de fumier. Bien évidemment, les mouches, elles ont pour fonction, au contraire, de dispatcher cette matière organique pour fabriquer de l'humus et pour permettre le cycle de la vie de continuer. Eh bien, c'est exactement la même chose, quelque part, par rapport aux bactéries et aux soi-disant virus. Les bactéries, en fait, sont là pour nous guérir. C'est nous qui les construisons lorsque nous en avons besoin. C'est-à-dire, ce sont nos microzymas qui les bâtissent. Et elles sont là, enfin, ces bactéries sont là, en fait, vraiment pour démonter les cancers, démonter les échafaudages qui ont permis la guérison des ulcères ou d'autres lésions internes qui sont des équivalents de cancer, etc.
Donc là, quand tu développes ça, tu t'appuies sur les travaux de Béchamp.
Alors, je m'appuie bien sûr sur les travaux de Béchamp et, si vous voulez, alors que toute notre médecine moderne repose sur le paradigme de Monsieur Pasteur. Donc, ce paradigme repose sur une seule expérience, qui est d'ailleurs une copie de ce qu'avait fait Béchamp auparavant. Pasteur a constaté, donc c'est la fameuse expérience de la mer de glace, il a constaté que un jus de légumes ou un jus de fruits laissé à l'air sur un glacier à 4000 mètres d'altitude avait tendance à se conserver parfaitement. Par contre, si on mettait ce même jus de légumes dans les rues de Paris, eh bien, il y avait très rapidement une fermentation qui se développait à l'intérieur de ce jus de légumes. Donc, cette fermentation, elle est bien sûr provoquée par des bactéries qui proviennent, donc Béchamp l'a démontré, de la décomposition des cadavres, des insectes ou des animaux ou des matières fécales ou autres qui se trouvent dans les environs. Et ces bactéries sont transportées par les poussières, viennent contaminer ce liquide non vivant, ce liquide organique mais non organisé, et déclenchent effectivement une fermentation de ce liquide non organisé. Et Béchamp a pu démontrer de manière rigoureusement scientifique, par des centaines et des centaines d'expériences, que ce processus n'est absolument pas envisageable chez un être organisé. Des bactéries qui pénétreraient chez un être organisé, en fait, ne restent pas. Elles peuvent éventuellement transmettre une information, mais elles n'y arrivent jamais. Elles ne sont jamais agressives. Il n'y a jamais de guerre à l'échelle microscopique. Donc tout ça, bien évidemment, on comprend bien, nous savons tous que pour pouvoir faire la guerre, pour avoir envie de faire la guerre, il faut avoir un mental relativement développé, il faut avoir des appétits intellectuels tout à fait particuliers, et quelque part, le désir de tirer un certain profit, que ce soit la conquête d'un territoire, que ce soit la conquête de biens matériels, que ce soit un butin qui soit sexuel ou autre, enfin peu importe, hein. Mais il y a toujours derrière une guerre un appétit et le désir d'un profit. Or, si on observe bien cette fameuse guerre soi-disant bactériologique, virale et tout ça, eh bien, lorsque l'individu est décédé des suites de sa maladie, les bactéries décèdent aussi. Donc, elles n'y ont trouvé strictement aucun avantage, donc ça n'a strictement aucun intérêt pour personne. Mmh. Donc, cette hypothèse guerrière de M. Pasteur est totalement erronée. Et en fait, on peut considérer aujourd'hui que toute notre médecine est bâtie sur cette hypothèse.
Ah, ah.
Je vais essayer l'éteindre, j'espère qu'il ne va pas rappeler. Voilà, donc toute notre médecine moderne est bâtie sur cette hypothèse guerrière. Et d'ailleurs, elle utilise des armes de guerre qui sont tout à fait comparables aux guerres entre humains. Hein, il y a, vous savez que dans les guerres entre humains, on utilise l'arme blanche. Bon, on peut comparer aux mutilations chirurgicales par rapport au cancer. On utilise de l'artillerie légère. L'artillerie légère, ça peut être les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antidouleurs. Mm-hmm. On utilise l'artillerie lourde. Donc ça, c'est les chimiothérapies, dont on sait depuis 2007 qu'elles ne servent strictement à rien. On utilise la bombe atomique, hein, Hiroshima, Nagasaki et compagnie. Mm. Alors là, c'est la radiothérapie, c'est la même chose. Mm. Et puis, on cherche des alliés, donc c'est aujourd'hui toutes les immunothérapies, toutes ces choses-là, quoi. Donc, on est vraiment dans un mécanisme de guerre tout à fait particulier.
Donc, en fait, ce qui aurait donné plus de poids aux découvertes de Pasteur, c'est justement cette dimension guerrière de l'homme, parce qu'ils oui. sont de la même époque, hein, ces deux-là.
D'autant plus que, si tu veux, si vous voulez, si je m'adresse à tout le monde, ouais. quelque part, Pasteur a fait passer son hypothèse et son paradigme, qu'on peut appeler le microbisme, le pasteurisme, peu importe, il a fait passer tout de suite après la défaite de la France face aux Allemands, et quelque part, il a redoré le blason français suite à cette défaite, et par conséquent, tout le monde a couru derrière lui et a prouvé sans réfléchir quelque part et sans vérifier, sans chercher de confirmation, sans refaire ses expériences. Donc, c'est quand même dramatique. Et d'ailleurs, Pasteur lui-même, sur son lit de mort, a reconnu à son ami, le docteur Renon, Claude Bernard avait raison, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc, il ne pouvait pas donner raison à Béchamp, qui était son ennemi juré, mais il a donné raison, en tout cas, à Claude Bernard, qui travaillait sur le terrain. Et quelque part, c'était le précurseur de la naturopathie. Et puis, il explique bien que le microbe n'est rien. Alors, bien sûr, on peut me dire, il y a les virus. Qu'est-ce que c'est que les virus ? Eh bien, les images de virus que nous avons, en fait, ce sont des images de microzima, lorsqu'elles sont des images sérieuses. Et puis, lorsque ce ne sont pas des images de microzima, ce sont des artefacts, ou bien ce sont des objets au crochet tricotés par des grands-mères, ou bien ce sont des images de synthèse faites par des infographistes. Mais en fait, jamais personne n'a vu un virus avec toute la théorie du virus qu'on nous raconte. On voit même dans certains virus, on retrouve même dans certains virus, le fameux cristal de silicium qui se trouve au cœur de chaque microzima et qui le caractérise et qui est probablement responsable de la transmission des caractères génétiques héréditaires. Donc, c'est vraiment très, très important.
Alors, je rappelle voilà. pour ceux qui auraient envie de creuser cette histoire de microzima, qu'on a fait une émission sur le sujet l'été dernier et que ça peut être une première étape avant d'aller approfondir un peu plus en venant faire une formation avec toi, en tous les cas.
Voilà. Alors, si on prend du recul par rapport à cette médecine, la première chose qu'on peut dire par rapport à la médecine moderne aujourd'hui, c'est que nous sommes tous des croyants. À part quelques hérétiques comme moi, mais nous sommes tous des croyants, c'est-à-dire que nous sommes tous persuadés que cette médecine est scientifique, elle est sérieuse. Et bien sûr, cette médecine, elle a ses grands prêtres, qui sont les médecins. Elle a ses temples, qui sont les hôpitaux et les cliniques. Elle a son cérémonial, qui sont les protocoles. Hein, vous savez que si vous allez à la messe, par exemple, vous aurez droit à un canon, à des prières toutes faites qu'on répète. Eh bien, les protocoles utilisés, les protocoles de guerre utilisés contre la maladie par cette médecine ressemblent tout à fait à ces canons de la messe ou aux prières pré-écrites. Et puis, elle a son sacrement. Vous savez que pour les catholiques, il y a le sacrement de l'Eucharistie. Et le sacrement de l'Eucharistie, on mange un morceau de pain et ce morceau de pain est censé être le corps du Christ. Pour les croyants, c'est le corps du Christ. Mais c'est une histoire de foi. Eh bien, il y a la même chose dans cette médecine moderne, dans cette religion de la médecine moderne. Le sacrement, c'est le vaccin. Le vaccin dont on sait de façon certaine depuis le départ, depuis le vaccin antivariolique qui a été mis au point par Jenner en 1789, qui ne sert strictement à rien sinon à relancer les épidémies. Et les vaccins modernes, qui ont une efficacité apparente, qui n'est absolument pas spécifique d'une bactérie ou d'un virus, cette efficacité apparente étant liée aux épouvantables poisons qui se trouvent à l'intérieur de la seringue et qu'on inocule en même temps que la soupe de purulence. Voilà, donc on est vraiment dans un système médical, religieux et non pas scientifique. Alors Béchamp avait pu démontrer à l'époque que certaines bactéries qu'on inoculait avec leur milieu, le milieu pathologique dont elles avaient sorti, comme le vaccin antivariolique par exemple, pouvaient se développer tant qu'il y avait ce milieu inoculé localement. Mais que dès que ce milieu était éliminé, la bactérie ne s'y développait plus. Hein, donc c'est ce que Béchamp appelait la dyscrasie, un milieu dyscrasique, c'est-à-dire un milieu pathologique. Quoi, hein. Je pense que Béchamp n'avait pas connaissance des vitamines et dans certains cas, lorsqu'il y a d'énormes carences en vitamines, en particulier en vitamine C, il est possible que des bactéries puissent rester entre deux zones, ne pas être vraiment agressive, mais rester présente localement. Mais la plupart du temps, quand des bactéries étrangères pénètrent dans notre organisme, eh bien, elles peuvent éventuellement transmettre une information, mais de toute manière, elles s'en vont, elles ne restent pas, et c'est ce qui explique en particulier le rejet des greffes. Une greffe, c'est pour que quelqu'un puisse garder une greffe, il faut littéralement le tuer à petit feu, à coup de chimiothérapie. Hein, traitements anti-rejet sont de véritables chimiothérapies. Ce sont des morts vivants, tous ces gens greffés, malheureusement, la plupart du temps. Hein. Bon, il y a des exceptions. Quand on arrive, justement, par un travail spirituel ou autre, à accueillir ces microcimas étrangers et à leur faire comprendre qu'ils sont bienvenus, une greffe peut éventuellement rester. Et sans qu'il y ait de chimiothérapie trop agressive. Mais sinon, la plupart du temps, on est vraiment dans un système de non-agression, en tout cas par les bactéries étrangères. Alors après, il y a le problème du cancer. Donc le problème du cancer, c'est encore un problème extrêmement complexe, puisqu'il y a des cellules qui se développent de manière soi-disant anarchique quelque part. Mais quand on va regarder plus près, on constate que c'est une organisation extraordinaire, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a la tumeur qui se forme, il y a des artères, il y a des veines, il y a des capillaires qui sont construits. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anarchique. Si on regarde, si on fait à l'époque quand on faisait des artériographies pour repérer les cancers avant qu'on ait les scanners, les IRM d'aujourd'hui, eh bien, on constatait un véritable encorbellement. C'était une beauté inouïe de voir une tumeur cancéreuse. C'est quelque chose de très, très beau et très, très organisé. C'est pas du tout anarchique, pas du tout, du tout. Et alors, après, on vous parle des métastases. Donc, qu'est-ce que c'est que le cancer? Le cancer, c'est quelque part une bouée de sauvetage qui vous permet, c'est une réponse réflexe psychosomatique à une agression psychologique, un stress monstrueux, et c'est ce qui nous permet de survivre, de garder notre sang-froid, de ne pas perdre le nord. Et puis, ensuite, on vous dit que le cancer va faire des métastases, il va envoyer des cellules cancéreuses ailleurs. Alors, D'abord, première chose, scientifique, jamais personne au monde n'a vu une cellule cancéreuse en train de se promener. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a, vous pouvez chercher sur Internet et partout, vous ne trouverez jamais, jamais un scientifique qui ait pu découvrir des cellules cancéreuses en train de se promener. Et c'est absolument aberrant, puisqu'il y a une organisation locale et c'est tout à fait clair que c'est pas pour rien qu'il y a ça. Voilà. Et puis ensuite, autre aberration complètement hallucinante et que moi-même j'ai gobé pendant des années avant de découvrir à quel point j'étais trompé par tous ces professeurs qui m'avaient raconté du n'importe quoi. Quand on imagine qu'une cellule, qu'un cancer, donc qui est une masse dure comme de la pierre, puisque c'est la caractéristique du cancer au palpé, cette tumeur dure comme de la pierre va envoyer des cellules en promenade, soi-disant, ces cellules en promenade vont partir, par exemple, dans l'os, où elles vont faire des trous, et carrément des trous, ce sont des caries. Mmh. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les biologistes, dans cette médecine religieuse, les biologistes sont capables de faire une biopsie du trou, et dans le trou, de retrouver des cellules, soi-disant, du cancer primitif, ce qui est du n'importe quoi. Alors, bon, là aussi, il faut savoir que quand on fait une biopsie, il y a tout un protocole qui est absolument indispensable pour pouvoir voir quelque chose à l'écran, à l'écran de l'ordinateur, quoi, hein. Ce protocole, on commence par plonger le prélèvement dans du formol, puis on le déshydrate, ce qui représente de faire disparaître 80% en moyenne de la substance vivante, et puis on le dégraisse, on fait une inclusion dans la paraffine brûlante, on laisse refroidir, on fait des tranches ultra fines, on récupère les tranches qui sont complètement dilacérées et fripées dans un bac d'eau, on attend qu'elles se défripent, on les récupère, on les pêche avec une lame en verre, on passe la lame en verre sur la flamme d'un bec benzène à 700 degrés de façon à scotcher, à coller la coupe sur la lame. Ensuite, il faut à nouveau faire un dégraissage pour enlever la paraffine. Ensuite, il faut faire un mordançage, c'est-à-dire plonger la lame et la coupe dans de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique extrêmement agressif pour faire des trous, des stries à l'intérieur de la coupe. Et ensuite, on met un colorant et ensuite, on s'extasie sur la vie. Alors, sur la vie ou sur le cancer ou sur des choses comme ça. Bon, il est clair que ça n'a rien de scientifique, ça n'a rien de sérieux. Ces gens-là n'examinent pas le vivant. Ils sont dans un véritable déni de la réalité scientifique. Il est vraiment regrettable qu'on n'ait pas diffusé cette reconnaissance de Pasteur sur son lit de mort. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc aujourd'hui, la médecine moderne s'est engagée dans une impasse totale et par conséquent, elle va d'échec en échec. Bon, on a réussi à faire des exploits sur le plan chirurgical, sur le plan imagerie médicale, sur des tas de plans. Mais au niveau, par exemple, du cancer ou des maladies infectieuses, c'est le hiatus, c'est l'impasse, il y a plus moyen. Alors bien sûr, ils vous disent que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Heureusement qu'elles deviennent résistantes aux antibiotiques, puisque c'est nous qui les construisons, ces bactéries, pour nous guérir. Alors, heureusement que la vie arrive à résister aux antibiotiques. Heureusement. Voilà. Bon, je crois que...
Mais on vit quand même dans une société où, globalement, nous, en tant qu'individus, nous sommes complètement convaincus que, de toute façon, l'agresseur se trouve à l'extérieur, que la réponse se trouve à l'extérieur, où on met facilement les choses à l'extérieur de nous. Donc, l'idée de Pasteur qui met justement le virus ou les causes à l'extérieur, ça vient complètement corroborer cette croyance quasi générale.
Oui, c'est un mécanisme extrêmement simpliste, c'est un mécanisme, ouais, c'est une foi, c'est une religion. Quelque part, c'est comme quand on fait une bêtise, c'est toujours la faute de l'autre, quoi, hein. On trouve toujours un coupable à l'extérieur.
C'est ça, ouais.
Voilà, mais ça, c'est un comportement très humain, hein. C'est... Voilà.
Donc, en fait, ce qu'on croit être, parce que la médecine, ça fait quand même partie des sciences qu'on appelle les sciences dures, hein, c'est-à-dire que c'est fondé sur des choses, voilà, ça a été prouvé, démontré, enfin, etc. Toi, ce soir, tu viens nous dire qu'en fait, c'est fondé sur rien. Ce n'est pas démontré scientifiquement.
Voilà, c'est fondé sur une hypothèse gratuite à partir d'une expérience qui ne prouve rien. On ne peut pas comparer un être vivant organisé à un jus de fruits ou un jus de légumes. Il faut arrêter de dire des bêtises, quoi. La vie est merveilleuse quand on découvre Béchamp, quand on découvre les microzymas, quand on découvre l'importance des vitamines, quand on découvre la psychosomatique avec Crotec, Laborite, Balinthe, Hammer, Marc Fréchet, Claude Sabage, Ratias, tous ces gens-là. Bon, c'est absolument merveilleux, quoi. La vie est d'une cohérence, d'une intelligence extraordinaire. Et là, on est dans la science, on n'est pas dans une religion. Alors que cette médecine moderne, malheureusement, se situe dans une religion. Alors, c'est très difficile de faire entendre raison à ces gens-là. Bon, j'en sais quelque chose, puisque je suis médecin depuis 1973. J'ai commencé très, très, très lentement à découvrir la vérité après ma radiation en 1996. Mm-hmm. Mais il m'a fallu des années pour découvrir toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'avant, j'admettais aveuglément l'histoire des métastases, le mythe des métastases, parce que là, c'est un mythe gratuit, totalement gratuit. J'admettais toutes ces choses-là, quoi. Hein.
Mais c'est peut-être d'autant plus difficile à remettre en cause que finalement, sur ces soi-disant découvertes scientifiques, se sont fondées toute l'économie pharmaceutique et que si ça s'écroule, tout s'écroule.
Voilà, donc c'est pour ça que... nous sommes pourchassés par les Espagnols puisque nous avons vendu des vitamines et donc nous sommes des dangers pour la santé publique avec les vitamines que nous conseillons régulièrement et que nous distribuions à une époque, quoi. Voilà, nous sommes vraiment des gens très très dangereux, ça c'est clair, mais pas pour les clients, nous sommes très dangereux pour les lobbies pharmaceutiques, c'est sûr, parce que les vitamines... C'est ce qu'expliquait quelqu'un, je ne sais plus où j'ai vu ça, quoi. Le problème, on ne peut pas mettre un brevet sur une vitamine. C'est un bien commun à l'humanité et ce sont des choses qui ne sont pas brevetables. Donc, on ne peut pas tirer de l'argent comme on pourrait le vouloir, quand on sait le prix d'une chimiothérapie. Bon, une journée de chimiothérapie, c'est entre 1 000 et 5 000 euros, quoi, par jour. Hein. Donc, évidemment, et ce sont des molécules qui, en général... la matière première ne coûte pratiquement rien, c'est pire que la mort orale, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est des choses qui sont connues depuis toujours, c'est le gaz sarin, le gaz moutarde de la guerre de 14-18, et des produits encore plus effroyables qu'on a mis au point. Mais ces poisons ne coûtent pratiquement rien, et donc la marge bénéficiaire de ces gens, c'est de l'ordre de 1000 pour 1, quoi, largement. Et donc, effectivement... nous sommes des gens très dangereux dès qu'on remet en cause cette foi dans le pasteurisme, dans le microbisme, quoi.
Alors, comment sortir de cette impasse, comment créer une ouverture ?
Voilà, donc on a créé avec quelques amis une association qu'on a appelée l'AIRP, association pour, je ne sais même plus ce que ça veut dire, donc pour essayer de faire, il faudrait d'abord, cette association a pour but de proposer dans les hôpitaux et dans les services de cancéreux ou dans les services de maladies neurologiques graves, etc., elle a pour but de proposer la collaboration de gens comme moi, comme certains de mes élèves qui sont prêts à foncer pour qu'on puisse déjà introduire un petit peu comme on introduit un coin dans une bûche pour la fendre, quoi. Introduire cette notion de psychosomatique, introduire aussi l'importance des vitamines et voilà, pas à pas, sans blesser les gens, sans blesser leur ego, parce qu'évidemment, les grands prêtres de cette religion, ils ont un ego à la mesure de leur charge, de leur fonction et tout ça, quoi. Donc voilà, on a fondé cette association. Bon, dans l'immédiat, on n'a pas fait grand-chose encore. On essaye simplement de réunir des adhérents. Donc on demande 10 euros de cotisation, ce n'est pas grand-chose. Hein, si vous pouvez aller sur mon site pour trouver les références de l'association et tout ça. Mais le but, c'est d'être suffisamment nombreux pour avoir du poids auprès des services hospitaliers, des directeurs des hôpitaux, et puis aller proposer gratuitement, bénévolement, de participer aux réunion interprofessionnelle lorsqu'il y a un malade, vous savez, avant de choisir le protocole, c'est-à-dire le fameux canon qu'on va appliquer à un malade, là on réunit les chirurgiens, les radiologues, les cancérologues, les gastro-entérologues, en fait tous les spécialistes. Bon, voilà, si on pouvait s'introduire dans ce genre de réunion, si on pouvait avoir un bureau dans les services et aller voir les malades et essayer de faire avec eux, de chercher avec eux quel a été le stress à l'origine de leur pathologie et ensuite d'en parler aux confrères de façon tout à fait paisible et sans agressivité, peut-être qu'on pourrait faire avancer les choses.
Quoi. D'accord. Parce que donc tu as prononcé le mot de psychosomatique. C'est-à-dire que toi, dans ta formation, alors je crois que tu t'es formé à la médecine du docteur Hamel et où tu as finalement travaillé autour des causes profondes de la maladie et des pathologies. Tu faisais une différence subtile entre maladie et pathologie que je trouvais intéressante peut-être à redire.
Oui, donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vit un stress extrêmement violent, qui nous met vraiment, qui nous déstabilise vraiment profondément, qu'on n'a pas la possibilité d'en parler, d'évacuer la colère, le chagrin, l'émotion d'une manière ou d'une autre, eh bien, on perd tout son froid. Et dans cette situation-là, on risque l'accident à chaque instant. Par ailleurs, on va perdre tout appétit, donc on va maigrir démesurément. On ne va plus dormir parce qu'on sera complètement obsédé par cette problématique. Et par conséquent, le cerveau, qui est notre pilote automatique, de manière réflexe, va mettre en route la construction ou le démontage d'une région, selon le stress d'origine, parce que c'est un mécanisme réflexe, c'est-à-dire que si par exemple le problème c'est danger de mort pour l'enfant, vous allez construire un cancer du sein. Si c'est séparation de l'enfant, ce sera un autre type de cancer du sein. Si c'est dévalorisation monstrueuse, à ce moment-là, c'est l'os qui va être rongé, parce que si vous valez rien, il ne faut pas que votre squelette vienne encore encombrer vos concitoyens après votre mort. Donc, vous commencez à le démonter de votre vivant. Enfin, bon, il y a des tas de mécanismes comme ça qui sont des mécanismes réflexes, qui n'ont pas de cohérence, d'intelligence intellectuelle comme on pourrait l'espérer, mais qui sont des mécanismes réflexes. Et donc, très souvent, on dépasse le but, mais en tout cas, qui nous permettent de retrouver le sang-froid, de retrouver la capacité de récupérer, de dormir et de manger un minimum pour ne pas mourir de faim. Voilà. Donc ça, c'est la psychosomatique en deux mots, quoi. Oui. Et ce processus pathologique, en principe, est inapparent, sauf si c'est, par exemple, un cancer du sein où on va pouvoir le palper. Mais on peut très bien développer un cancer du gros intestin, de l'estomac, du poumon, sans en avoir la moindre idée et sans avoir le moindre symptôme pendant cette phase de pathologie. Et puis, le jour où le stress disparaît, à ce moment-là, ce cancer n'est plus utile. Donc, si c'est une tumeur, elle va se démonter. Pour pouvoir se démonter, nos microzymas vont fabriquer des bactéries, qui sont des bacilles tuberculeux ou des staphylocoques, des biocyaniques, je ne sais trop quoi, pour pouvoir démonter plus facilement cette tumeur. Si c'est un trou, par exemple, d'une carie dans un os, eh bien, les microzymas vont reconstruire de l'os à l'intérieur du trou et ce sera comme un calosseux, c'est-à-dire que ce sera plus gros quelque part que l'os à l'origine. Pour la solidité, en fait, c'est une histoire de solidité. Voilà. Et c'est dans cette phase de réparation qu'il va y avoir de l'inflammation, de la fatigue, des douleurs. Et c'est dans cette phase-là, donc, qu'on va en général consulter. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand on consulte pour une maladie grave, pour un cancer, on consulte au moment où on a basculé en maladie, en réparation, et au moment où normalement le corps est parfaitement capable de guérir, à condition quand même d'avoir une hygiène de vie correcte, de consommer suffisamment de vitamines, etc., etc. Voilà, donc il y a les deux phases, la pathologie qui est la plupart du temps inapparente, et puis la maladie qui est le processus de réparation.
D'accord. Et dans une émission précédente, tu expliquais la différence entre maladies et pathologies, en disant que notamment la pathologie, je crois que c'est l'expression d'une souffrance, alors voilà. Que la maladie, c'est la résolution d'un conflit intérieur.
Voilà, le mal a été dit, donc la souffrance a disparu, la souffrance morale a disparu, le cancer n'est plus utile, et par conséquent, il est démonté automatiquement, aussi, de manière aussi automatique et réflexe qu'il a été construit.
D'accord.
Voilà. Le seul problème, c'est que cet œdème, cette inflammation, exactement comme quand on fait une égratignure, quand vous prenez une lame de rasoir, vous faites une petite égratignure sur la peau, quand vous passez la lame de rasoir, c'est à peine sensible. Mais une minute après, les deux bords de l'égratignure s'enflamment et ça devient très douloureux. Donc en fait, la plupart du temps, on va consulter dans la phase de maladie, de réparation. Et là, si on laissait faire l'organisme, la plupart du temps, la guérison serait automatique.
D'accord. Hein, donc en fait,
du poumon, hein, cancer du poumon. On a accompagné je ne sais combien de personnes qui avaient un cancer du poumon. Déclaré où on proposait ablation du poumon, chimiothérapie, radiothérapie et compagnie, et où les gens ont accepté de nous écouter, c'est-à-dire ils ont fait un travail psychologique pour digérer l'émotion qui a été à l'origine du cancer, et puis ils ont pris des vitamines, et puis ils se sont reposés, et puis ils ont guéri. Sans rien faire, sans mutilation, ils ont retrouvé leur forme d'avant. Voilà, on n'a pas les mêmes résultats pour tous les cancers parce qu'il y a des tas de circonstances extérieures qui vont faire que ça ne va pas forcément se passer aussi bien. Bon, je prends l'exemple du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est terrible parce qu'il y a quelque part un des attributs de la féminité aujourd'hui, c'est la poitrine aujourd'hui, hein, puisque à une époque, les femmes manifestaient leur féminité par les jupes et les jambes à l'air. Aujourd'hui, c'est plutôt par les seins au balcon. Bon, donc dès qu'on touche à la poitrine aujourd'hui, la mutilation, les radiations, les brûlures, tout ça, ben, ça va déclencher des tas de complications, de nouveaux stress qu'on va baptiser métastases, mais qui sont en fait de nouveaux stress. Bon, on prend aussi par exemple l'histoire des métastases. Bon, quand on vous dit que vous avez un cancer, automatiquement, cancer égale mort. La mort pour le cerveau, c'est un danger terrible, c'est un nouveau stress. Et la mort, c'est perdre le souffle. Par conséquent, si on perd le souffle, eh bien, il faut plus de souffle. Et donc, le cancer du poumon, en fait, c'est un poumon qui permet de respirer plus. Voilà, en fait, le cancer a toujours un sens, même s'il est pas très cohérent, mais il a toujours un sens. Et ce sens, c'est essentiellement bon, de répondre au stress, mais ça, c'est toujours très maladroit, mais en tout cas, de nous permettre de garder le sang-froid dans une situation de stress majeur.
Oui, c'est ce que tu donnais l'exemple du puits de la vache, où en fait, ce qui permet à la vache de produire du lait quand on lui a enlevé son petit dans le seul objectif de produire du lait pour notre consommation, en fait, elle développe un cancer, si je me souviens bien.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, chaque fois que nous consommons du lait de vache, du fromage, c'est pareil pour le lait de brebis et les fromages de brebis ou de chèvre, hein, c'est exactement la même chose. Et il faut que la vache soit une vache laitière. Pour que la vache soit une vache laitière, eh bien, il faut impérativement la mettre en stress par rapport à la survie de son bébé, c'est-à-dire lui enlever son bébé. Pour elle, dans ce cas-là, il est en danger de mort. Et dans ce cas-là, si vous voulez, elle construit un sein au fonctionnement turbo, qui au lieu de fabriquer 4 ou 5 litres de lait par jour, va en fabriquer 20, 30, 40, voire même 50 litres par jour, et un lait extrêmement nourrissant. Et quelque part, grâce à ce cancer, la vache peut survivre, elle peut nourrir son veau. À partir du moment où le processus cancéreux est mis en route, elle n'a plus de stress, le stress est oublié, il est effacé, il est digéré quelque part, il ne l'empêche plus de dormir, ni de manger, ni de survivre. Et quelque part, à travers son lait, qu'est-ce qu'elle donne ? Eh bien, elle donne de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, elle se sacrifie, elle va sacrifier sa substance pour sauver son bébé. Et quand vous consommez un fromage, quand vous consommez un yaourt, quand vous consommez du lait, eh bien, vous consommez de l'amour inconditionnel. Que ce soit du lait de chèvre, du lait de vache, du lait de brebis, c'est toujours la même chose. C'est de l'amour inconditionnel en barre. Et c'est génial. Et c'est, voilà, bon, alors après, il y a des gens qui disent le lait, c'est une sacrée vacherie. Mais non, le lait n'est pas une sacrée vacherie. Mais le problème, et là encore, il faut voir, c'est tout peut déclencher des stress psychologiques. Quand vous consommez du lait, automatiquement, psychologiquement, ça vous ramène à maman. pour peu que maman n'ait pas été la maman parfaite et idéale dont vous rêviez, et malheureusement, il n'y a quand même pas, les mamans font un travail extraordinaire qui est totalement méconnu, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas salarié, qui n'est pas, c'est hallucinant de voir à quel point les mamans ne sont pas reconnues, hein. Bon, eh bien, la maman n'a pas forcément été absolument parfaite et idéale comme vous auriez voulu qu'elle soit. Et par conséquent, chaque fois que vous consommez du lait, ben, vous allez réveiller des rancœurs, des amertumes. Ces rancœurs, ces amertumes, elles vont se biologiser sur la vésicule biliaire, sur le cholédoque, sur les voies biliaires en général. Et ça va déclencher énormément de troubles, parce que la vésicule biliaire, c'est un organe essentiel, c'est un viscère essentiel pour le corps. En médecine chinoise, on dit que c'est l'entraille curieuse, c'est le bouclier émotionnel du cœur. C'est ce qui évite justement que nous fassions des arrêts cardiaques pour un oui ou pour un non. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, ce viscère a des antennes, des méridiens qui passent qui suivent les bronches, qui suivent l'arrière-nez, les sinus, la gorge, et qui donnent aussi au niveau de la peau, qui peuvent donner des migraines à droite ou à gauche. Donc, voilà. Donc, si la vésicule biliaire est malade, le méridien va être engorgé et vous allez avoir des tas de problèmes de rhume, de sinusite, de bronchite, ou de migraines. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le lait est une sacrée vacherie. C'est pas le lait qui est une sacrée vacherie, c'est votre relation à maman. Et donc, si vous réglez votre relation à maman, si vous arrivez à comprendre que votre maman n'est pas une déesse parfaite et qu'elle a fait ce qu'elle a pu, à ce moment-là, vous pourrez supporter très bien le lait, et le lait ne vous donnera aucun problème.
Alors, en même temps, j'ai envie de te questionner, de te titiller là-dessus, parce que dernièrement, je partageais avec une amie le fait que on remettait, c'est souvent, enfin, comment dire, quand on parle d'intolérance alimentaire ou d'allergie alimentaire, on propose d'aller chercher sur les causes psychosomatiques, ce qui est une bonne chose, effectivement. Cependant, quand même, je tiens quand même à préciser, c'est que quand on donne au corps des aliments qui ne sont pas physiologiques pour lui, forcément, à un moment donné, il y a un processus de guérison et donc de détoxination qui va se mettre en œuvre. Et que je dirais qu'à la base, le lait de vache, il est quand même conçu pour les veaux. Et est-ce qu'il est vraiment conçu pour les êtres humains?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est très important ce que tu dis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est les mêmes protéines dans le lait de vache et dans le beefsteak. Donc, le beefsteak ne nous donne aucun problème et le lait de vache, on ne pourrait pas l'assimiler. C'est du n'importe quoi.
Alors, moi, j'ai entendu dire, dis-moi, est-ce que c'est un dogme encore ou une fausse croyance? Est-ce que c'est mal fondé? Que dans le lait de vache, qui permet de nourrir le veau qui va devenir à taille adulte en 9-10 mois, il y a des facteurs de croissance 9 fois supérieurs au lait humain. Ce qui fait que, en fait, consommer du lait déjà, ça va favoriser justement l'évolution des cellules cancéreuses, et que c'est la première chose qu'on propose d'arrêter quand on a un cancer. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça fait rire.
Le sucre, mais tout ça sont des âneries. C'est toujours la religion. C'est toujours la religion médicale officielle. Le cancer est un ennemi. Mais non, c'est pas un ennemi. C'est votre bouée de sauvetage. Donc, les facteurs de croissance. Heureusement qu'on a eu des facteurs de croissance dans le lait de notre maman, qu'on en a dans les aliments, qu'on en a partout, parce que si on n'avait pas de facteurs de croissance, on serait...
D'accord, mais c'est quand on ingurgite des aliments qui ont des facteurs de croissance bien supérieurs, 10 fois supérieurs à ceux conçus à la base pour nous.
Mais il y en a aussi dans le steak, il y en a partout. Il n'y en a pas que dans le lait.
Oui.
Tout ça, il y en a absolument partout. Quand on dit que le lait contient des toxines, bien sûr que non, il ne contient pas la moindre toxine. C'est un aliment parfaitement pur qui est prévu pour le bébé.
Oui, la vache, je te titille, hein, la vache, elle ne donne pas du steak à son veau, elle donne bien du lait, ça passe par le lait, donc les facteurs de croissance, c'est bien du lait.
Si, la maman humaine donne du lait à son bébé, mais après, on lui donne du steak. Et de toute façon, le veau, quand il reste au pied de la vache, bon, la vache ne fabrique que 4 ou 5 litres de lait par jour, et puis le veau se met tout de suite à brouter de l'herbe. Donc, la plupart de son volume vient de l'herbe qu'il a mangée et non pas du lait de la vache.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Hein.
Je crois qu'il faut arrêter de voir dans le cancer un ennemi. Le cancer, il est notre sauveur. Si on n'avait pas de cancer en permanence, bon, Hammer a pu montrer par A plus B que chaque cancer avait sa signature au niveau du cerveau, qu'on pouvait repérer sur les scanners cérébraux. Eh bien, j'ai examiné des centaines et des centaines de scanners cérébraux dans ma vie, et je peux te dire qu'il n'y a pas une personne qui n'ait pas entre 20 et 30 cancers actifs en permanence. Dans son présent, et elle n'en a aucune information, et je ne vais pas trop lui en raconter, je vais simplement lui dire qu'elle a eu tel conflit ou tel autre à partir du scanner, mais en fait ça veut dire qu'il y a un cancer derrière, mais ce cancer va guérir tout seul. Aucune inquiétude à ça, donc on ne rentre pas dans la peur que quelque part toute cette médecine religieuse soi-disant médicale elle nous met dans la peur et elle nous tient par la peur. Hein, c'est un petit peu comme chez les chrétiens, où on vous dit, oui, si vous faites mal, vous allez avoir l'enfer, ça va être terrible, les diables crochus avec leurs fourches qui vont torturer, les flammes de l'enfer, toutes ces choses-là. Ben, la médecine, c'est un peu pareil, ils nous tiennent par une peur qui est terrifiante. Quoi, hein. C'est alors, pas vrai, ça n'est pas un ennemi.
Ok, ceci dit, je reviens quand même à mon questionnement, qui je pense est important. Donc, je te repose ma question, c'est y a-t-il des aliments non physiologiques pour l'être humain qui génèrent du coup des qui vont générer des symptômes en dehors de tout facteur psychosomatique, émotionnel?
Alors ça, c'est difficile de te répondre, je ne crois pas, parce que l'homme est omnivore. Donc, si, il y a quand même quelque chose qui peut vraiment déclencher, mais alors je vais te faire bondir, qui peut quand même déclencher des troubles, ce sont les écorces des graines. Quand on mange du blé complet ou des graines complètes, il faut savoir que nous ne sommes pas des granivores. Donc, si on prend des graines décortiquées, c'est-à-dire semi-complet ou autre, ça va. Mais sinon, l'écorce même, là, c'est vraiment pas adapté à l'être humain, puisque ce sont les oiseaux qui ont un gésier, qui n'ont pas broyé des cailloux, qui va pouvoir assimiler ces écorces. Voilà. Je crois que c'est à peu près la seule chose. Et puis après, bien sûr, il faut éviter de se nourrir chez McDo ou dans des trucs comme ça, quoi, puisque là, c'est complètement stérilisé. Ce sont des aliments morts qu'on nous donne à manger. Il est clair que quand on consomme un aliment vivant, que ce soit un steak pas trop cuit, parce que s'il est trop cuit, évidemment, il est complètement carbonisé, il n'y a plus rien. Si on consomme des aliments vivants qui n'ont pas été passés au rayon gamma, qui ont encore des microzymas vivants en eux, ces microzymas vont véritablement venir nous apporter de la vitalité. Alors que si on consomme des aliments morts, il n'y a plus de vitamines, plus rien. Quoi. Là, c'est une catastrophe. Mais sinon, je crois que le seul aliment qui est vraiment à éliminer, c'est l'écorce de la graine.
D'accord. Mais en même temps, tu dis que l'homme est omnivore, mais c'est très controversé ça, parce qu'il y a énormément, et notamment quand on va regarder un petit peu du côté de la naturopathie, il y a un écho. Beaucoup de gens disent que, d'ailleurs, il y a des grandes guerres là-dessus. Hein, c'est finalement, qu'est-ce que mange l'homme, hein. Donc, toi, tu dis qu'il est omnivore, mais moi, j'en entends beaucoup qui disent que l'homme est frugivore ou crudivore.
Voilà. Alors, à l'origine, l'homme a été créé pour être frugivore. Ça, c'est sûr. Il a été créé pour vivre en zone équatoriale et être frugivore. C'est pour ça qu'il ne synthétise pas la vitamine C. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec cette thèse. Mais bon, il est clair que depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, il a fini par s'adapter et devenir omnivore. Donc, il est capable de consommer et de manger à peu près n'importe quoi. Bon, il est sûr que la digestion n'est pas aussi facile selon ce qu'on consomme, quoi. Hein. Voilà. Alors, quand on consomme un fruit, on va avoir à transformer ce fruit en être humain, c'est-à-dire un végétal en être humain. C'est un travail colossal. Donc, les êtres frugivores, que ce soit les singes ou tous les animaux frugivores, en fait, ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils digèrent. Hein, un frugivore est quelqu'un qui cueille et qui mange, qui cueille et qui mange. Donc, il ne peut pas travailler.
Ouais. Ah, c'est pour ça que je ne travaille plus.
Voilà. Le frugivore, il ne peut que cueillir et manger, mais il ne peut pas ni faire du travail intellectuel, ni. Voilà, ce n'est pas possible. Hein. Alors après, pour faire du travail intellectuel, pour avoir une disponibilité au niveau musculaire, pour aller couper des arbres, pour construire des maisons, ou des chalets ou n'importe quoi, bon, là, il est impératif d'avoir une alimentation qui soit beaucoup plus digeste, qui ne nécessite pas autant de transformation. Et donc, il faut manger des aliments qui sont plus près de nous, c'est-à-dire plutôt des aliments animaux. Alors que ce soit les œufs, qui sont un aliment absolument extraordinaire, que ce soit les fromages qui sont prédigérés, ou alors des viandes, et des viandes d'animaux, des viandes rouges, quoi, des viandes d'animaux qui sont plus proches de nous que les oiseaux. Les oiseaux seront un peu plus difficiles, hein, le poulet, tout ça, sera plus difficile à digérer que du bœuf. Bon, et le cochon, c'est encore plus facile puisqu'il y a une matière organique qui est extrêmement proche de l'être humain.
Donc, mais en même temps, les frugivores ou les crudivores vont te dire que la digestion est beaucoup plus rapide, facile, on se sent léger. Enfin, ce que je confirme parce que je suis frugivore.
Oui, au niveau digestion. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le travail de transformation que les microzymas sont obligés de faire après. Mm-hmm. Et ce travail de transformation nécessite énormément d'énergie. Alors que, bon, moi je me souviens... Quand j'étais gamin, j'étais toujours grande gueule, donc je mangeais beaucoup et j'étais sans arrêt malade, je faisais des indigestions, puis j'étais en rancœur avec ma mère, bon, c'est comme tout le monde, comme tellement de gens, quoi, hein. Et donc je faisais sans arrêt des indigestions, dès que j'étais passé un peu les bornes, je me mettais à vomir et j'en avais pour des heures à vomir. Et puis vers 15 ans, je suis allé faire des foies en Allemagne. Bon, j'allais faire des foies en Allemagne, bon, c'était super, mais à l'époque, c'était très peu motorisé. Donc, on faisait pratiquement tout au râteau à la main, à la fourche. Je ne suis même pas. Je crois que de temps en temps, il y avait une botteleuse qui passait, mais la plupart du temps, on chargeait le foin comme ça, à la fourche. Et donc, c'est un travail physique qui était extrêmement important. Eh bien, ces paysans, ils s'arrêtaient. Bon, le matin, on mangeait du lard. À 10 heures, on mangeait du lard. À midi, on mangeait du lard. À 4 heures, on mangeait du lard. Et on avait une énergie colossale. Et on mangeait. Et je peux te dire que je m'empiffrais comme je faisais toujours. Et je n'ai jamais été malade. Parce que le lard ne demande pratiquement aucun travail digestif.
Après, je crois que c'était la relation à la nourriture, elle est tellement intime quelque part que c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Que...
Et la relation à la nourriture, c'est la relation à maman, là encore. Hein.
Oui, tout à fait.
Moi, j'étais famille nombreuse, j'étais perdu au milieu de la masse, donc il fallait que je récupère le plus de nourriture possible parce que je récupère un peu de maman. Quoi. Aujourd'hui, comment ça s'est passé?
Alors, qu'est-ce que tu penses du jeûne?
Du jeûne?
Oui.
Oui. Alors, le jeûne, bah justement, je dois donner une conférence cet été avec Bernard Clavière.
Oui, on en parlait hier soir, parce que je le recevais hier soir, justement.
Bon, alors, le jeûne, par rapport au processus cancéreux, n'a strictement aucun intérêt.
D'accord.
On dirait, si on est dans une dynamique de guerre par rapport au cancer, il n'a strictement aucun intérêt. Par contre, il a un immense intérêt par rapport à la conscience. C'est-à-dire que... on reprend le cas d'un stress terrible, hein, un stress terrible qui te vient et qui met ton sang-froid à l'épreuve, qui t'empêche de manger, qui t'empêche de dormir, qui te bloque. Bon. Si à ce moment-là, tu décides en conscience de faire un jeûne, tu vas élargir ta conscience. Mmh. Et donc, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement dédramatiser la situation, trouver son sens profond, trouver en quoi tu vas pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, ça peut être extrêmement intéressant dans ce sens-là, mais dans un but, si tu veux, d'élargissement de conscience. Par contre, utiliser le jeûne pour lutter contre le cancer, c'est absurde. Hein ? Il ne faut pas lutter. Le cancer doit être accompagné. Donc, il faut bien comprendre le processus. Hein. Lutter contre le cancer par le jeûne, c'est aussi bête que d'utiliser une chimiothérapie, c'est aussi bête que de se priver de sucre, c'est aussi bête que de... Tu ne peux pas imaginer le nombre de gens que nous accompagnons depuis 2002. Je pense qu'on a dû accompagner peut-être 10 000 personnes depuis 2002, c'est énorme. Et le nombre de gens qui sont arrivés chez nous, ils n'avaient plus le droit de manger de sucre, ils n'avaient plus le droit de manger ça, ils ne pouvaient plus rien manger, plus de viande rouge. Mais c'était horrible, ces gens-là étaient dans une détresse psychologique monstrueuse créée par ces préceptes qui étaient toujours des préceptes de guerre. Quoi. C'était toujours la religion de la médecine officielle, sauf que les thérapies utilisées étaient moins agressives, mais c'était toujours la guerre contre. Alors, il faut sortir de ce système Il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est la religion médicale officielle. Donc, on croit à la guerre, que ce soit quand on fait la guerre d'une manière ou d'une autre, on est à côté de la plaque. Un processus qui doit s'accompagner. Et donc, le jeûne peut être extrêmement intéressant pour ouvrir la conscience et découvrir le sens profond des événements qui nous ont stressés.
Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça va bien dans le sens de ce qu'on disait avec Bernard Clavière. C'est-à-dire que faire un jeûne pour faire un jeûne, quelque part, si c'est pour rien changer à sa vie derrière, eh ben on va passer sa vie à faire des jeûnes et puis il n'y a jamais rien qui va changer. Et que pour nous, finalement, ce qu'on disait, que le jeûne, c'était une opportunité d'ouvrir sa conscience et à se nourrir avec une nouvelle nourriture d'amour, en fait. Hein.
Exactement ça. Là, je suis 100% d'accord.
Donc, alors…
une arme de guerre, voilà.
Par contre, effectivement, ce que tu dis, parce que j'ai tellement de témoignages de gens qui se sont soignés, enfin, qui ont guéri leur cancer avec le jeûne, enfin, c'est ce qu'ils croyaient. En fait, c'est comment le jeûne leur a permis alors d'ouvrir la conscience. C'est intéressant, c'est vraiment…
Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est de rester dans cette religion médicale officielle où on se bat. Il faut arrêter de se battre contre le cancer, contre la maladie. Il faut essayer de la comprendre, de l'accompagner. Il n'y a jamais, jamais une maladie qui nous met en danger si on n'est pas carencé en vitamines. Si on a une carence en vitamines, la pire des maladies guérit en quelques heures, quelques jours. Bon, je vois par exemple le cas du tétanos. Une injection intraveineuse de vitamine C, de 1 g de vitamine C intraveineuse chez un malade atteint du tétanos, qui est en tétanos aigu, qui est en opisthotonos, c'est-à-dire qui est complètement, qui ne respire plus, le cœur s'arrête et tout ça, on lui fait 1 g de vitamine C, 2 minutes après, il est debout, il est guéri. Donc ça aussi, c'est important, les vitamines, mais tout compte, quoi. Mais ce n'est pas un système de guerre. La vitamine C ne va pas tuer le bacille tétanique, ce n'est pas vrai. Le bacille tétanique va pouvoir travailler tranquillement sans fabriquer la toxine. C'est tout.
Alors, j'avais eu une question précédemment qui disait, mais finalement, où tu préconises l'apport de vitamines, mais ce qu'il faut repréciser, c'est que le contexte global dans lequel on vit, la nourriture qu'on absorbe, le stress, etc., fait que nous sommes carencés en vitamines.
Absolument.
Et qu'on peut avoir des apports ponctuels, mais l'idée quand même, c'est de toujours la même chose, c'est de changer notre façon de vivre pour se donner, je dirais, un terrain propice à la santé.
Alors, pour le terrain propice à la santé et ne pas avoir de problème avec les vitamines, c'est pas compliqué. On retourne en Équateur et on redevient frugivore. Donc là, on ne travaille plus, on n'a plus besoin de maison, et puis on mange et on cueille et on mange. Voilà. Bon, ça, c'est le terrain idéal. Bon, on vit dans une société où c'est pas possible. Si tout le monde se précipitait à l'Équateur, je sais pas qu'est-ce que ça deviendrait. Les 7 milliards d'individus à l'Équateur. Donc, c'est pas envisageable. Bon. Donc, il est clair que ces fruits des régions équatoriales étant extrêmement riches en vitamine C, l'être humain n'a jamais appris à synthétiser la vitamine C. Donc là, il faut se complémenter. C'est impératif. Si on ne se complémente pas du 1er janvier au 31 décembre en vitamine C, automatiquement, les processus cancéreux, les maladies et tout ça vont prendre de la gravité, ce qui est dommage. Alors que c'est tellement facile de se complémenter, ça ne coûte pas cher, c'est quand même très pratique, quoi. Bon, voilà. Donc, il faut se complémenter en vitamine C. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de par les pollutions, même sur le bio, parce que les champs voisins sont plus ou moins pollués, parce qu'il y a eu des traitements antérieurs. Moi, on regardait il n'y a pas longtemps un film avec Brigitte sur les moyens de cultiver de façon intelligente et sans pesticides et tout ça. Mais les gens, ils changent leur technique, les agriculteurs changent leur technique de culture. Mais avant que la terre soit nettoyée de tous les poisons, il y en a certainement pour des années et des années, il ne faut pas se leurrer, quoi. Lorsque nous étions en Espagne, nous avions récupéré un jardin qui était utilisé par le paysan du coin auparavant, et ce paysan du coin, il mettait du désherbant 3 fois par an. Donc, on a essayé de faire pousser des choses dans ce jardin, on avait 3 fois rien, quoi. C'est hallucinant, quoi. Bon, il faut des années et des années. Et puis, il y a tous les pesticides qui sont déversés à côté, qui risquent de contaminer. Et puis, Et puis, bon, c'est sûr que apparemment, il semble bien que beaucoup de traitements, de conservateurs et autres, augmentent nos besoins en vitamines. Alors, pas seulement la vitamine C, mais les vitamines B, la vitamine E, etc.
Voilà. Alors, il y a une question. Est-ce que tu peux nous parler de la silice organique de Loïc Le Ribot?
Alors, bon, ça c'est très facile. Hein. Bon, nous savons de façon scientifique, rigoureuse et certaine aujourd'hui qu'il y a au cœur de chaque microclimat un cristal de silicium. Je pense, alors ça c'est une hypothèse qui est encore à démontrer, mais il faudrait des moyens et du temps. Je pense que ce cristal de silicium permet de lire les informations génétiques et la morphologie du corps et toutes les informations organisationnelles de l'être vivant dans l'eau ambiante. Je crois que c'est l'eau dans laquelle nous baignons, qui est le principal constituant d'un corps vivant, qui est détenteur de cette information, et surtout pas l'ADN et l'ARN, qui ne sont probablement que des chaînes de montage, nos métabolites. Hein. Voilà. Donc, cette eau ambiante détient probablement cette information génétique et morphologique de l'ensemble du corps, ce qui est une information essentielle pour permettre aux microzymas de travailler. Et les microzymas peuvent lire ces informations grâce à ce cristal de silicium. Nous perdons chaque jour des millions de microzymas dans les matières, dans les urines, dans la transpiration, par les gouttelettes de flux quand nous parlons, etc., etc. Bon, il faut les remplacer. Et pour cela, il faut évidemment de la silice de qualité. Alors, Loïc Le Ribot a utilisé une recette de son ami François Truffaut qui permettait de transformer de la silice minérale en silice organique grâce à des bactéries. Pas de problème, elle est très bien. Le seul problème, le seul et unique problème qu'on pourrait opposer à ça, c'est que quelque part, ça revient très cher et les quantités sont minimes. Mais c'est efficace, il y a quand même une efficacité indéniable. Nous avons des tas de sources de silice qui est tout aussi utile, valable et beaucoup moins onéreuse. Et une des principales, c'est, on connaît bien la prêle, mais une plante qui contient un maximum de silice, c'est le bambou. Donc c'est pour ça que à l'époque, quand nous étions en Espagne, nous avons fait préparer, exprès pour nous, un complexe à la fois de vitamine C, B, de vitamine A et de bambou, qu'on appelait le complexe Paracels. Et il faut savoir que chaque gélule de notre complexe Paracels apporte l'équivalent en silice de 2 litres de G5. Donc c'est quand même infiniment plus économique. Mmh. Et c'est un bambou extrêmement, extrêmement positif. Si vous voulez, le bambou est une plante d'une vitalité extraordinaire, donc tout le monde en bénéficie. Mmh. Voilà. Là aussi, tu vois, dans les plantes, il y a des facteurs de croissance, hein, comme dans la vache. Mmh. Il y a des facteurs de croissance extraordinaires, mais ces facteurs de croissance, ce sont des facteurs de vitalité pour nous. Quoi. Mmh.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alain. Comme d'hab, tu nous mets la tête à l'envers. J'adore. Et donc là, on arrive à la fin de l'émission, mais j'avais envie quand même que tu nous parles un peu plus de ces formations que tu donnes.
D'accord. Alors, donc, il y a deux types de formations que nous proposons. D'abord, des séminaires de découverte. Ces séminaires de découverte durent 2 jours. On essaye de grouper ça le week-end, soit samedi, dimanche, soit dimanche et lundi. Donc, il y en a 1 ou 2 par mois. Et au cours de ces séminaires de découverte, on fait un petit peu le tour de toute cette médecine que nous proposons, cette médecine réellement scientifique que nous proposons autour du professeur Antoine Béchamp, autour des microzymas, autour de la psychosomatique, autour des vitamines, etc., etc. Donc on fait vraiment un tour d'horizon global et les personnes qui assistent à ces séminaires repartent avec un petit cahier résumant tout ça, illustré, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible absolument à tout le monde et qui coûte relativement peu cher puisqu'on demande 200 euros pour les 2 jours. Voilà. Et puis, il y a la formation de base. La formation de base, donc ça, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment pour les gens qui veulent se consacrer à un travail d'accompagnement des malades. Pardon. Voilà. Donc, ce sont des gens qui veulent vraiment accompagner les malades sous une forme professionnelle ou bien amicale et qui ont besoin de découvrir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est cette médecine scientifique, parce que quand même dans la médecine on apprend quand même l'anatomie, la physiologie, la pathologie, on apprend plein de choses qui sont extrêmement utiles. Et donc dans cette formation on va voir absolument tout ça, c'est-à-dire que les gens qui sortent après 2 années de formation ont des connaissances équivalentes à celles d'un médecin tout à fait compétent. Voilà, mais ça représente quand même 12 fois 5 jours de travail. Donc, à la fois pratique, à la fois théorique, et évidemment là le coût est un peu plus important, je demande 500 euros pour les 5 jours, et il faut donc multiplier par ça par 12. Donc le premier module aura lieu en septembre, et puis ensuite on déterminera avec les participants, on essaiera de voir les dates qui arrangent le maximum les autres pour déterminer les dates des modules suivants. Donc le premier module, ce sera surtout les bases scientifiques, et puis ensuite on passera appareil par appareil pour vraiment découvrir, comprendre comment fonctionne le corps humain et quelles sont les pathologies qu'on peut rencontrer et comment on peut aider ces gens-là à guérir cas par cas, maladie par maladie en quelque sorte.
Donc tu abordes toute la symbolique des maladies en fait, hein, les causes profondes de la maladie.
Toute la symbolique, mais bien plus que ça.
Ouais.
L'embryologie, c'est vraiment tout, c'est extrêmement complet.
D'accord, donc ça s'adresse au commun des mortels.
Oui, ça s'adresse à tout le monde, mais il faut que les gens aient la volonté de s'en servir, sinon
oui,
c'est quand même relativement onéreux et ça ne mériterait pas le déplacement. Mais je peux garantir aux personnes qui veulent vraiment, qui ont la bonne volonté, qui veulent vraiment aller là, que cette formation est complète et leur apportera vraiment tous les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir accompagner des malades ou se guérir eux-mêmes, hein, aussi, c'est possible. C'est de temps de travail quand même.
Ok. Alors, pour la suite, là, parce qu'en fait, mercredi prochain, le 30 mai, oui, on va animer un atelier sur donc, tous les deux, où pour les personnes, donc c'est sur inscription. Donc, pour vous inscrire, ben vous allez sur mon site internet, lecoeurconscient.fr, dans la rubrique actualité, et vous pourrez donc ainsi participer à l'atelier sur la symbolique des maladies, où tu répondras de façon personnalisée aux personnes qui viendront te poser des questions sur leur sens, la cause profonde de leurs symptômes, de leurs maladies.
Tout à fait. Donc, voilà. Donc, je serai à votre disposition le temps nécessaire.
Voilà. Et puis alors, il y a une petite dernière question. Eternalite qui nous demande une source fiable de bambou en France. C'est-à-dire que est-ce qu'en France, le bambou est de source fiable ?
Alors, je crois que le bambou ne nécessite aucun traitement, donc il n'y a pas de problème, quoi. Je crois que je vois pas comment on pourrait trafiquer le bambou aujourd'hui. Hein. On peut en trouver dans les magasins bio. Bon, il y a notre complexe Paracels qu'on peut trouver chez Nutrivita. Donc, qui contient donc 400 mg de bambou par gélule, donc c'est déjà pas mal. Voilà, bon, il y a.
Donc, on peut se rendre sur ton site pour voir quels sont les laboratoires que tu, avec lesquels tu travailles, parce qu'on m'avait aussi posé la question, mais finalement, quand on voit toutes les supercheries et toutes les. On ne sait plus trop finalement quels sont les labos qui sont fiables. Et voilà, donc toi, tu as des partenariats, tu travailles avec des gens qui sont fiables, et donc on trouve les coordonnées sur ton site.
Tout à fait. Tout à fait. Vous allez chercher dans. Alors, c'est dans la rubrique acheter et il y a une rubrique vitamines. Et donc, voilà. Là, vous avez tous les éléments avec les liens pour contacter directement notre partenaire qui a pris la suite de notre travail de distribution des vitamines et des compléments alimentaires.
Voilà. Ok, super. Eh bien, écoute, merci Alain. Un petit mot pour la fin.
Eh bien, voilà. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que nous sommes tous des croyants, même les athées, parce que tous les croyants croient à la médecine, tous les gens en principe croient à cette médecine, eh bien, ils se trompent, ils sont dans une chimère, et il faut véritablement chercher pour comprendre autrement et sortir de la guerre. Je crois que le créateur, le vrai, n'est pas un sadique. Il n'a pas fabriqué des vilaines bactéries, des vilains virus ou des vilaines cellules cancéreuses pour nous faire du mal. Il a tout prévu, tout organisé. Et c'est à nous d'accompagner ces processus avec notre intelligence, avec notre conscience, et sortir de la guerre, sortir une fois pour toutes de la guerre.
Oui, mais ça, là-dessus, je te rejoins, parce que c'est comment on se bat contre soi-même, contre les parties de soi-même, comment on se bat contre la vie, comment on cherche à la contrôler. Et tout ça fait que ça empêche les processus naturels du vivant, parce que finalement, la vie, elle est prospérité infinie, quoi.
Elle est merveilleuse.
Elle est merveilleuse, tout à fait. Et quand on commence à aller dans le sens du flux de la vie et du vivant, on peut en faire véritablement l'expérience, véritablement. Ok, merci à toi. Je te dis à très bientôt parce qu'on va se voir cet été. Donc, parce qu'on va refaire une émission sur les microzimas, parce que c'est fondamental ça. Et puis, on va se croiser chez Bernard Clavière pendant cet événement autour du jeûne. Et entre le 14 et le 28 juillet. Voilà. Eh bien, écoute, à très bientôt, Alain. Merci à vous tous et bonne soirée.
Au revoir, Marie. Au revoir, vous tous.
À la semaine prochaine, en tous les cas, pour notre atelier.
D'accord.